VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
16h à Abidjan, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Togo, l'internet mobile reste toujours coupé ce jeudi, alors que de nouveaux rassemblements de l'opposition sont prévus aujourd'hui, au lendemain d'une journée de mobilisation massive dans les rues de Lomé et d'autres villes du pays. Le ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, Gilbert Bawara, avait confirmé mercredi sur plusieurs radios locales que les autorités se réservaient le droit d'imposer des restrictions à l'accès à Internet. Hier, une véritable marée humaine de partisans de l'opposition a déferlé à Lomé et dans 10 villes du Togo pour réclamer une alternance politique dans un pays dirigé depuis 2005 par le président Faure Gnassingbé. Compte rendu de notre correspondante dans la capitale togolaise, Kayi Lawson.
Militants et sympathisants de l'opposition togolaise exigent dans la rue le retour à la constitution de 1992. Les leaders appellent le pouvoir à écouter la rue. Maître Dodia Pévon, président des Forces démocratiques pour la République, FDR.
On ne peut pas tout le temps retourner à bord cette fois-ci. Lorsqu'ils vont vouloir faire les choses, il faut qu'ils le fassent pour qu'on sache qu'on a obtenu les réformes. Ce n'est pas juste des promesses qu'ils vont nous faire, on va faire ça et puis on va reculer. On restera mobilisé jusqu'à l'obtention réelle et concrète de ce que nous demandons.
Ce même mercredi, les associations qui soutiennent le président Faure Gnassingbé ont tenu un meeting pour, disent-elles, réaffirmer leur attachement aux valeurs de paix. Boniface Essokassi, l'un des organisateurs.
Nous voulons la paix dans ce pays. Nous n'avons jamais refusé les réformes. Nous voulons les réformes. Nous voulons qu'on fasse les réformes dans de bonnes conditions.
Ce mardi 5 septembre, le Conseil des ministres a adopté un avant-projet de loi portant modification des articles 52, 59 et 60 de la Constitution togolaise. Ces articles concernent en particulier la limitation des mandats et le mode de scrutin. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Nigeria, le président Muhammadu Buhari va-t-il se retirer après son premier mandat? Les spéculations à ce sujet sont relancées depuis ce mercredi après les propos de la ministre de la Condition féminine, Aïcha Alassane, qui a confié à nos confrères de Reuters que le président Buhari avait promis avant même son élection de se retirer en 2019. Le point avec Bagassi Koura.
À en croire Aïcha Al-Hassan, Buhari aurait déclaré aux membres de son parti avant son élection qu'il ne briguerait qu'un seul mandat, ce qui sous-entendait à l'époque qu'il n'avait pas l'intention de se représenter en 2019. Ces propos de la ministre de la Condition féminine pourraient raviver le débat sur le futur politique du président nigérien. Buhari, 74 ans, a été élu en 2015, mais il a été absent pendant une grande partie de cette année. Pour des raisons médicales, il doit se prononcer s'il va briguer un second mandat. La ministre Al-Hassan menace de démissionner si Buhari est candidat à sa propre succession l'an prochain, préférant soutenir dans ce cas l'ancien vice-président Atiku Abubakar si celui-ci est candidat. Selon Reuters, les deux porte-parole du président ont refusé de commenter les propos de la ministre.
En RCA, quelques 25 000 personnes ont fui les récentes violences dans le pays. Les intéressés se sont réfugiés dans une zone isolée du nord de la RDC voisine, a indiqué mercredi un responsable humanitaire de l'ONU. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Ces réfugiés se trouvent dans un endroit vide de toute autorité. Il n'y a pas de réseau, pas de route, a expliqué à l'AFP Joseph Nganji, directeur pour la Centrafrique du Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires OCHA. Ils ont fui des affrontements entre des groupes armés non identifiés début septembre à Zemio, à quelques 733 km à vol d'oiseau au sud-est de la capitale Bangui sur la frontière avec la RDC. Zemio avait déjà été frappé par les violences en juin et en août, provoquant des morts et une première vague de déplacés internes. Le responsable d'OCHA affirme avoir tout le matériel et les équipes prêts à intervenir sur Zemio, mais il n'y a pas la sécurité nécessaire pour les équipes humanitaires. En juillet, la plupart des ONG ont suspendu leurs activités en raison du climat sécuritaire. La moitié de la population centrafricaine dépend de l'aide humanitaire selon les Nations Unies. La Centrafrique subit depuis plusieurs mois une recrudescence d'affrontements entre groupes armés avec en ligne de mire le contrôle des ressources naturelles et des zones d'influence.
La Voix d'Amérique en direct de Washington.
Le Tchad, confronté à la chute des cours du pétrole, tente d'attirer les investisseurs. Une table ronde de 3 jours s'est ouverte hier à Paris en présence du président Idriss Déby. Elle regroupe le gouvernement tchadien et ses partenaires
Objectif, mobiliser les fonds de financement du plan national de développement. Selon notre correspondant, Anjamina André Kodmajinga, cette table ronde est loin de faire l'unanimité.
Cette rencontre vise à séduire les principaux bailleurs de fonds à mobiliser environ 4 milliards de dollars afin de donner une bouffée d'oxygène aux finances publiques à travers le financement du Plan national de développement 2017-2021. Une rencontre qui soulève une vive réaction à N'Djamena comme à Paris. Au niveau national, la CODAC, coordination de l'opposition démocratique pour l'alternance et le changement, estime qu'il y a une utopie autour de ce projet. Baïmongue Ndombaï Brice en est le porte-parole.
Il ne s'agira pas de dons, mais de prêts. Le pouvoir a donc tort de ne pas l'expliquer clairement à son peuple, laissant planer l'illusion qu'il va s'agir donc de l'argent frais que certains habitués rêvent déjà d'empocher. Ces prêts, s'ils sont mal utilisés comme d'habitude, devront être remboursés par les générations futures.
Or, à la veille de cette table ronde, le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, Guito Yambaï, rassure les Tchadiens en ces termes.
Nous avons tiré des leçons de toutes les pratiques de notre pays par le passé et nous avons changé de méthode de travail. C'est pour cela que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons pu produire un document politique de long terme et la manière dont nous organisons la table ronde de Paris, elle est différente.
Ce mea culpa ne convainc pas le mouvement citoyen, l'OPACT, projet pour une alternance crédible au Tchad et la plateforme citoyenne des revendications basée à Paris en France. Ils organisent conjointement ce 6 septembre à Paris, en marge de cette table ronde, une alterconférence pour dénoncer l'appui continu de la communauté internationale au régime de Déby. Abdelkerim Yacoub Koundougoumi est le coordonnateur du pacte.
La priorité aujourd'hui, c'est de régler la question de la légitimité du pouvoir en place au Tchad. Le Tchad a bénéficié deux fois du plan national de développement. Personne n'a fait le bilan. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont géré cette manne pétrolière de 13 milliards, elles viennent pour la troisième fois demander de l'aide. Non, il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête.
Le président de l'Union des jeunes pour le renouveau, Myarim Dila Evariste, un organe de l'UNDR, Union nationale pour le développement et le renouveau, que dirige Saleh Kebzabo, chef de l'opposition tchadienne, s'en est pris à l'ambassade de France au Tchad qui a refusé de donner le visa à un membre de l'opposition tchadienne annoncé pour cette alterconférence de Paris.
Il est désormais clair que la racine des maux du peuple tchadien se trouve à Paris. C'est pourquoi, pour traduire en acte le désaccord de la jeunesse tchadienne vis-à-vis de la politique française au Tchad, des actions fortes vont être posées à compter d'aujourd'hui jusqu'à ce que la France revoie sa politique au Tchad.
André Kodmajingar Ndjamena, VO Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant, un sénateur américain poursuivi pour corruption. Le procès du démocrate Robert Menendez, élu de l'État du New Jersey, est en cours depuis hier près de New York. Une saga judiciaire qui pourrait durer deux mois. Eric Manirakiza.
Le parquet a retenu 14 chefs d'accusation contre Menendez. Les procureurs fédéraux accusent le sénateur démocrate d'avoir utilisé sa fonction pour défendre les intérêts d'un riche ami entre 2006 et 2013. Robert Menendez aurait bénéficié de nombreux vols gratuits en jet privé du prêt d'une villa en République dominicaine de trois nuits dans l'hôtel de luxe Park Hyatt Paris Vendôme, de repas, de parties de golf et de plus de 750 000 dollars de dons de campagne. En échange, M. Menendez aurait aidé un homme d'affaires de Floride, Salmon Melgen, dans l'attribution d'un contrat de marchandises par les douanes de la République dominicaine et dans l'obtention de visas américains pour les petites amies de cet homme d'affaires, sans oublier le règlement d'un contentieux avec le ministère de la Santé américain. À son arrivée au tribunal fédéral de Newark, le sénateur Menendez a déclaré qu'il n'a jamais déshonoré sa fonction. En cas de condamnation, il risquait la prison et perdrait son siège de sénateur. Il reviendrait alors au gouverneur républicain du New Jersey, Chris Christie, de nommer un successeur. Ceci pourrait avoir des conséquences politiques importantes dans les rangs des démocrates au niveau de l'actuelle répartition du Sénat si un républicain remplaçait Menendez.
Actualité américaine toujours, l'ouragan de catégorie 5 Irma a frôlé mercredi soir le nord du territoire américain de Porto Rico avec des vents soufflant à 295 km/h, provoquant des coupures de courant et de fortes précipitations, même si l'œil du cyclone est resté au large de l'île. Porto Rico a été placé en état d'alerte par le président américain Donald Trump mardi, tout comme les îles Vierges américaines et la Floride, où l'évacuation des zones menacées par la tempête est en cours. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.